Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, comme tous les mercredis, on parle cinéma dans le réveil culturel, mais aujourd'hui, on va donner la parole à deux cinéastes qui filment la nature et les animaux. Donc pas de mise en scène avec les hommes. Alors d'abord, l'Espagnol Oliver Lax, qui a dévoilé la semaine dernière son dernier film, Viendra le feu, au dernier festival de Cannes, où il a obtenu le prix du jury de la sélection Un certain regard, et qui filme des paysages brumeux et pluvieux de sa région familiale en Galice, dans un village rural souvent confronté aux feux de forêt. Alors bien sûr, il y a une trame fictionnelle, mais Oliver Lax filme les animaux, la nature en feu, en mode cinéma vérité. Et puis ensuite, nous interrogerons Jorge Camilo Valenzuela, qui va, lui, jusqu'au bout du monde pour filmer la nature et les animaux sauvages, comme on le dit pour les animaux qui vivent en liberté, et particulièrement les animaux en voie de disparition. Jorge Camilo Valenzuela est par ailleurs l'instigateur d'un festival de la photo et du cinéma animalier dont la première édition s'ouvre aujourd'hui au cœur des Landes encore sauvages, c'est-à-dire à Mimizan. Le FIFPAN, le Festival International du Film et de la Photographie Animalier et de Nature, propose jusqu'au 2 juin des films où les héros ne sont pas des humains qu'on peut diriger, mais des animaux et des plantes, l'air et le feu. Mais d'abord, Oliver Lax pour Viendra le feu, beau film qui ne sortira que le 4 septembre au cinéma, mais qu'on peut voir néanmoins, si on est parisien cette semaine, au Reflet Médicis, dans le cadre de la reprise d'Un certain regard. Viendra le feu, il sera projeté demain jeudi 30 mai à la séance de 20h et le lundi 3 juin à la séance de 21h40.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Oliver Lax, votre film Viendra le feu, qui a été dévoilé à Cannes dans la section Un certain regard, sortira le 4 septembre. Mais je voulais m'entretenir avec vous parce que dans ce film où vous revenez un peu sur les traces de vos origines, puisque ça a été filmé dans un village de vos parents, de vos grands-parents, vous allez nous le dire, il y a une manière de filmer la nature.
Oui, en fait, c'est une partie, une région de l'Espagne, la Galice, très rurale, avec des valeurs très ancestrales, millénaires, et j'ai tourné, deux résistants qui continuent aujourd'hui à vivre avec trois vaches et une vieille chienne qui sont en harmonie avec la nature. Et une nature très fertile, très très dense, très belle. Il y a des 40 tons de vert, non? Il y a beaucoup de vert, des plusieurs tons de vert.
Cette nature-là, en tant que réalisateur, comment vous la filmez? Est-ce que c'est d'abord un travail de réflexion, puisque j'ai appris que pour ce film, Viendra le feu, vous avez dû tourner durant toute une année, mais il fallait que vous captiez les quatre saisons.
Oui, on a tourné la pluie, qui en Galice aussi est très très intense. Et peu à peu, le film, de cette contraction, de cette partie plus hivernale, il commence à s'ouvrir comme les personnages, non? Il y a des choses qui succèdent, le printemps, l'été, tout se dilate jusqu'à qu'un moment, il y a un incendie. On a aussi dû tourner dans des vrais incendies. Malheureusement, en Galice, c'est un lieu où le feu est un acteur qui est toujours présent. Donc on a dû faire les examens de pompiers, théoriques, physiques, on a dû apprendre à bouger entre les équipes de pompiers, un feu qui s'approche à vous, quelque chose qui est de beauté scandaleuse. Personne peut dire que le feu n'est pas beau, mais en même temps qui est d'une cruauté grande, non? C'est un peu ce paradoxe un peu de l'être humain aussi, qui est capable du plus beau et du plus exécrable en même temps, et c'est un peu cette double inspiration que le film un peu tourne.
Sans déflorer vraiment tout le sujet de ce beau film, Viendra le feu, on aura le temps d'en parler sans doute à la rentrée, puisqu'il sort le 4 septembre, je le rappelle, le feu fait partie de la dramaturgie du film. Il y a un personnage qu'on accuse à tort ou à travers d'avoir mis le feu dans une partie de cette forêt.
Je crois qu'il n'y a jamais eu un film qui a été tourné dans des vrais incendies, je crois. on fait toujours des effets spéciaux, j'imagine.
Mais là, en l'occurrence, c'était un véritable incendie.
C'était des véritables incendies. On avait quelqu'un de la production qui était à la radio, à la Provence, qui nous disait où il y avait les feux. Et nous, on était prêts, on était une unité aussi de pompiers. On était bien accompagnés, bien évidemment. Et on partait chercher le feu, non? Donc imaginez déjà le dialogue avec la réalité, avec la nature, avec le feu, non? Il y a quand même une intensité. Je suis de ceux qui croient qu'il y a toujours tout ce qui se passe derrière la caméra, ça apparaît dans l'image, non? Je crois que cette intensité, elle est dans le film aussi.
Quand vous avez écrit l'histoire de Viendra le feu, vous êtes projeté dans une situation donnée, c'est-à-dire un feu qui prend, et un feu, vous dites scandaleusement beau, vous avez trouvé la bonne formule, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous saviez à l'avance que cette région était soumise régulièrement à des incendies et que vous attendiez qu'on vous appelle pour vous dire ça y est, il y a un incendie, et pour vous c'était le bon jour puisque c'est le jour où il fallait tourner.
C'était un peu le cas. En fait, nous, on voulait tourner des villageois qui sont dans une souveraine soumission dans la nature, qu'ils acceptent ce que la vie leur donne, avec détachement, avec acceptation, avec remerciement. Quand on était en train d'attendre les feux, il y a pas eu d'incendie du tout. En fait, c'était l'année la plus pluvieuse, avec plus de pluie de la Galice de son histoire. Le deuxième année qu'on tournait les incendies.
C'est incroyable, Louis Lax, parce que je suppose que pour les villageois, c'était une bénédiction. Heureusement, il n'y a pas d'incendie. Et que pour vous, réalisateur, qui aviez déjà cette histoire de Viendra le feu et de l'incendie, c'était pas tout à fait une bonne nouvelle. Comment vous avez géré?
Vous voyez, la création, l'art, nous demande toujours de prendre une distance. On prend cette figure du pyromane. C'est une figure, un archétype quand même assez démonisé par la société, bien évidemment. Et on n'essaye pas de le juger ni de justifier ses actes, mais si on invite les spectateurs à sentir sa cicatrice spirituelle, à être avec lui un petit peu. J'insiste pas à justifier ses actes, non. Je pense que d'une manière ou autre, dans le monde, on est tous coupables ou innocents. On pourrait tous faire mieux les choses. Quand je vois que la société, l'opinion publique se met tous d'accord pour être contre quelqu'un, comme artiste, même si des fois je participe dans cette rage et dans cette, mais comme artiste, j'essaye de styliser ma rage, non? J'essaye de me dire, bon, il doit avoir une raison, non? Cette douleur, elle doit avoir une racine. Si quelqu'un provoque cette douleur, c'est parce que c'est quelqu'un qui a souffert de la douleur aussi, de la souffrance. Non? Donc le film essaye d'aller chercher cette essence, cette raison essentielle. Non?
Oliver Lax, dans Viendra le feu, vous venez de nous dire que l'année où vous avez décidé de tourner ce film, eh ben c'est là où il y a eu le plus de pluie, donc le moins d'incendies. Comment vous gérez ce paradoxe, c'est-à-dire entre vous, en tant qu'artiste, réalisateur, et toute votre équipe de film qui attend l'incendie, et puis les villageois qui sont plutôt contents qu'il n'y ait pas d'incendie?
Je mettrais en doute qu'il y a des villageois qui ne sont pas contents, parce qu'il y en a beaucoup qui les provoquent d'abord.
Pourquoi?
Il y a beaucoup de raisons, et c'est pas seulement les villageois. Déjà, le feu est un outil qu'ils ont, les villageois, pour que les pâturages se revivifient d'abord. Après, bon, c'est un sujet très large, il y a aussi des raisons politiques, économiques... où tout le monde a une partie de responsabilité. En Galice, tout le monde a des terrains qui sont abandonnés, etc., qui pourraient s'occuper. Bref, on ne va pas rentrer dans ce sujet. Il y a toujours des incendies. Tant qu'on ne les provoque pas, ma conscience, elle est tranquille. À certains moments, on a aidé aussi les pompiers à éteindre les incendies.
Mais comment vous étiez vu vous-même, Oliver Lax?
C'est une question très complexe aussi, un peu pour élargir un peu la question. En fait, beaucoup des choses qui se brûlent, ce sont des plantations, des cultures d'eucalyptus ou de pins qui sont vraiment pas tellement bonnes pour la nature. Ils appauvrissent beaucoup la terre, ils font qu'aucune plante se développe. Bien évidemment, je suis pas en train de justifier qu'ils brûlent. Mais seulement, j'essaie d'élargir le regard. C'est assez complexe, la nature, ces cycles. Nous, on en fait partie. C'est un mystère. Bien évidemment, le feu aussi influence le réchauffement de la planète. Bref, il y a vraiment des conséquences écologiques désastreuses, non? Je pense que les cinéastes, on est un peu des voleurs. On pourrait bien évidemment nous juger parce qu'on vole de la vie. Mais par contre, on redonne à la vie ce qu'on vole avec plus de vie. Pas toujours. Et je sais pas si c'est mon cas. Je sais pas si c'est le cas de Viendra le feu. Mais il y a quand même, je crois, au fond, une bonne intention, une intention de service, une intention d'élargir le regard.
Viendra le feu, votre film, Oliver Lax, commence par cette belle scène où on voit des eucalyptus tomber les uns après les autres, qui les abat. Là aussi, dès le premier plan, on se pose la question, on est dans le cinéma, on est dans le réel?
C'est du cinéma. Personne abat les eucalyptus avec des bulldozers. C'est quelque chose qu'on a fait pour le film. Là, on a abattu des arbres qui allaient être coupés pour faire du papier. On a sillonné la Galice, on a cherché ce terrain d'eucalyptus. On a fait un casting de bulldozers. Ces machines qui sont très anthropomorphisées dans le film, non, c'est vraiment, ils sont très spiritualisés, on sait pas, on dirait des animaux, des bêtes. On dirait le mal incarné.
Dans Viendra le feu, vous filmez les animaux, la nature, les couleurs dans cette montagne, dans ce village de Galice. Est-ce que on filme la nature, les animaux d'une manière tout à fait différente que les humains, Oliver Lax?
Non, en fait, dans ce film, on a essayé d'aller à l'essentiel, à tous les niveaux, à l'heure de tourner l'être humain. Il y a très peu de psychologie. Il y en a, mais elle est subtile. On a fait vraiment un récit à l'os. Et avec les animaux, pareil, on les a contemplés, on les a regardés, ils ont leur place. Ils nous escrutent un peu avec leur regard. Ils nous demandent, il y a quand même... le chien d'Amador, le chien de ce pyromane avec lequel il a quand même une relation très belle. Donc dès le début, on se dit quand même, c'est un pyromane, il brûle, apparemment, parce qu'on ne sait pas si c'est lui qui a brûlé, mais quand même, il a un rapport aux animaux très doux, c'est quelqu'un de très sensible, ce célibataire de montagne qui est une figure très répandue dans Lava. Mais voilà, les animaux, la nature, ils sont tous un peu... Il n'y a pas de division, il n'y a pas de dialectique entre l'être humain et la nature. Je crois que tout est un peu en harmonie. Des fois, les séquences qu'on tourne avec des acteurs, on est des chasseurs. On sait le but, on sait où aller, on y va directement. Par contre, la nature et les animaux, heureusement, on est des pêcheurs. On est avec la canne, on est là, on patiente. Le vent souffle et voilà, il y a un moment qu'il y a un petit poisson qui pique la maçon, on dit, ou pas, peut-être qu'on revient à la maison sans poisson. Le chasseur aussi.
Elle est belle votre image, Oliver Lax, mais quand vous dites « on attend », vous attendez quoi? Vous attendez la scène que vous vous imaginiez?
Oui, enfin malheureusement, oui, on a toujours des idées, les réalisateurs, on a des idées très fixes, mais... Heureusement, la vie toujours nous traçant, elle nous supère, elle est beaucoup plus forte que nous, elle toujours nous donne, si on est prêt à accueillir, elle nous donne des choses qui sont infiniment plus stimulantes et inspirantes que ce qu'on a. On a tourné avec la vraie chienne de l'acteur. On savait qu'il y avait déjà un rapport, une passion entre eux deux. Des fois, par exemple, pour souligner un peu cet amour entre eux deux, ben on faisait qu'ils ne se voyaient pas en deux jours. Non, ils se séparaient pendant deux jours et quand on avait la séquence, bon, ben, il y avait vraiment cette Luna, elle s'appelle Lune, la chienne, qui exprimait son amour de manière très, très vif avec Amador. On a tourné avec les vaches les plus, bon, je connais tous les villageois là-bas, c'est mes voisins, il y a ma famille aussi, qu'ils ont aussi des vaches et on savait qu'elles allaient être les meilleures actrices.
Vous avez fait un casting?
Bon, on a fait quelques questions. Enfin, c'est compliqué parce qu'il fallait quand même que les vaches s'entendent entre elles. Ça n'a pas été facile. Après, il y a une séquence avec un cheval, qui est mourant. Et on a filmé cette séquence où ce pauvre cheval, il incarne toute cette douleur du film, non? Des incendies, non? C'est un peu la conséquence du feu. Ce cheval qui marche dans le paysage après la bataille. Non? De mon expérience, le cinéma se fait d'après le sacrifice de tous ses membres. Sacrifice, que c'est un mot qui n'est pas très aimé aujourd'hui à la lumière de la modernité, non? Mais qui est une belle parole. Sacrifice, sacrificio, se faire sacré à travers une soumission, une acceptation. Les acteurs se sacrifient, le réalisateur se sacrifie pour faire un film. J'insiste, on enlève de la vie pour redonner avec plus de vie. C'est un film, je crois, ou au moins l'intention était de faire un film écologique, dans le sens où les animaux sont considérés, leur douleur est considérée, ils incarnent la douleur du monde. On voulait que les spectateurs se sentent vraiment sur place. Pour que les images le pénètrent vraiment, pour que, dans la mesure du possible, faire un peu de cinéma, quand même un outil de réflexion, d'élargissement du regard, etc.
Filmer la nature, filmer les animaux, filmer une terre ancestrale, c'est ce que vous faites dans Viendra le feu, Oliver Lax, dans votre Galice, j'allais dire natale, mais non, vous n'êtes pas né là-bas, mais vous avez vécu là-bas et vos parents, votre famille sont de là-bas. Est-ce que pour ce film, vous avez changé d'équipe? C'est-à-dire, est-ce que le chef opérateur, c'est quelqu'un qui vient d'un cinéma plus proche de la nature, des animaux, de ce cinéma très spécialisé, très dans le documentaire, sans parler du film animalier, ou c'est quelqu'un avec qui vous aviez l'habitude de travailler?
On vient tous un peu du documentaire, on s'est tous formés dans le documentaire. Vous savez, en Espagne, le cinéma, il est très polarisé entre un cinéma de marché et un cinéma essentiel, non? Donc on doit vraiment faire ce cinéma, au début au moins, dans les marges, avec très peu de moyens. Et donc, il y a toujours une approche au réel, très crude, on va dire, hein? Donc on a cette formation. Ce qu'on essaye, c'est d'essayer d'évoquer avec vraiment un récit que dans ce film est très classique, mais avec un regard très accroché au réel, à la beauté du monde.
Et la beauté du monde, pour vous, c'est la beauté de la nature.
Avec ses contradictions, effectivement. Quand on regarde un beau paysage, à l'intérieur de ce paysage, il faut qu'on soit conscient qu'il y a plein d'injustices qui sont en train de se produire pour que cette beauté existe. Il y a des animaux qui sont en train de s'entretuer, il y a des plantes qui tuent d'autres plantes. La vie, elle est complexe, elle va un peu au-delà du bien et du mal. Et voilà, nous, on a essayé en essayant de faire un film affirmatif, lumineux, qui défend que l'être humain est beau et que le monde a un sens et un équilibre. On a quand même essayé de contempler ce beau paradoxe qui est le monde.
Merci Oliver Lax, on aura l'occasion de reparler de votre film à sa sortie, c'est-à-dire à la rentrée, le mercredi 4 septembre pour être précis, mais pour ceux qui cette semaine sont à Paris ou qui vivent à Paris, qui voudront le voir avant sa sortie officielle, il reste deux projections de votre film au Reflet Médicis dans cette salle de cinéma d'art et d'essai qui reprend donc cette semaine les films d'un certain regard. Pour avoir plus de renseignements, je vous recommande de passer par notre page, la page du Réveil culturel, disponible sur franceculture.fr.
Le Réveil culturel. Toufik Hakem.
Nous rêvons tous d'explorer les endroits les plus reculés de la planète. Mais rares sont ceux qui font de ce rêve une réalité. Jorge Camilo Valenzuela est de cela. Né au Chili, élevé au Brésil et résident en France, ce citoyen du monde photographie entre ciel et terre toutes les forêts vierges du globe pour en capter la saisissante beauté. C'est dans une des parties les plus mystérieuses du monde que le photographe a décidé cette fois de nous emmener afin de nous révéler la splendeur, mais aussi la fragilité de son écosystème. Une aventure extrême que Rory nous invite à partager à travers un univers aussi hostile que fascinant, au cœur de la vie sauvage de Bornéo.
Et bout du fil, depuis Mimizan, Jorge Camilo Valenzuela, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe et réalisateur. On vient d'écouter un extrait de votre dernier film, Au cœur de la vie sauvage de Bornéo, un film qui a été récompensé à New York, en Espagne et qui va être projeté pour l'ouverture donc de ce nouveau festival, le FIFPAN, le Festival International du Film et de la Photographie Animalier de Nature, qui s'ouvre donc aujourd'hui dans les Landes sauvages. Vous êtes d'ailleurs aussi l'initiateur de ce festival. Mais avant de parler de ce festival, parlons de votre travail de metteur en scène, de photographe. Comment on décide d'aller filmer au plus près les animaux sauvages de Bornéo? Ça part d'une commande ou ça part d'une envie?
Alors, c'est parti d'abord d'une envie. D'abord, j'ai passé 2 ans en immersion totale dans la jungle de Bornéo pour faire un livre photographique, un beau livre photo, un reportage pour les éditions Vilo. Et suite à ça, cette immersion de 2 ans, j'ai eu envie de raconter une histoire. L'histoire de ces espèces rares en danger endémiques de Bornéo, les éléphants pygmées, les orang-outans, les singes nasiques. Et pour cela, il fallait une fille conducteur, une rame, il fallait un photographe qui allait rentrer au fur et à mesure dans la jungle et petit à petit rentrer comme un chemin, un voyage initiatique au cœur de la jungle de Bornéo. Et c'est comme ça que le film est devenu Into the Wild of Bornéo, au cœur de la vie sauvage de Bornéo.
Vous dites 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 ans, Jorge Camilo Valenzuela?
Pendant 2 ans, on explore tous les écosystèmes. Il y a les écosystèmes au bord des rivières, il y a les écosystèmes en haut de la canopée, il y a les écosystèmes dans la forêt vierge, il y a les écosystèmes qui sont plutôt les mangroves.
Quand vous dites « j'explore », vous explorez en tant que photographe, vous essayez de voir si vous pouvez rendre compte de cette nature, de cet environnement, de ces animaux. Vous êtes avec des scientifiques qui ont déjà fait l'inventaire de toutes les espèces animales et végétales qu'on peut trouver dans cette jungle et vous essayez de les retrouver?
Exactement. En fait, on rentre dans des zones qui sont normalement fermées au public, au grand public. Donc ce sont des zones où il faut rentrer encarté en tant que photographe ou réalisateur. Et on rentre à l'intérieur en roue libre et on doit faire des bivouacs, on doit faire des campements pour rentrer à l'intérieur. Ensuite, on a les rapports des scientifiques qui nous permettent de découvrir un peu les espèces, de savoir plus ou moins ce qu'elles mangent, où est-ce qu'elles sont, dans quelle saison. Et donc du coup, après l'immersion de 2 ans, c'est vraiment pour avoir le temps de photographier et de filmer ces animaux avec la bonne lumière, avec la bonne composition et surtout, plus important, se faire accepter par les animaux. C'est ça le plus dur. Et pour se faire accepter, il n'y a pas d'autre choix que d'être patient et de se faire accepter par les animaux petit à petit.
Certains animaux que vous filmez, que vous prenez en photo, sont dangereux. Je pense aux crocodiles. Comment vous faites
Il faut connaître les codes. Chaque animal a des codes. Chaque animal va vous signaler à peu près quand est-ce que vous avez dépassé la limite de son environnement, de sa zone de confort. C'est-à-dire que dès que vous dépassez, un serpent va se lever, un crocodile va commencer à titiller, un félin va commencer à tirer la queue.
Est-ce qu'on peut dire que votre film, Au cœur de la vie sauvage de Bornéo, est un film écrit? Est-ce que vous l'avez écrit avant de le filmer ou
oui,
l'écriture vient au montage avec les images que vous avez pu obtenir?
Non, vraiment, on a écrit un scénario, on a fait un storyboard et on a essayé de s'y tenir. Après, la nature nous donne ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'on est obligé de reconstruire un petit peu le scénario à la fin, effectivement, par rapport à ce qu'on a eu. Mais on a gardé quand même un fil conducteur et une trame. Donc à partir de là, c'est un film documentaire, on a respecté le film. Ensuite, on a eu des choses qu'on s'attendait pas, qui étaient merveilleuses. L'orang-outan qui nous regarde avec un regard fixe, qui fait
ouais, c'est un moment très intense dans le film,
voilà.
Ouais.
Tout à fait. Donc à partir de là, il y a des choses comme ça, magiques, qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas écrire dans un scénario. C'est la nature qui nous la donne.
Jorge Camilo Valenzuela, vous êtes à Mimizan, donc parce que c'est aujourd'hui que s'ouvre la première édition de ce festival, et vous êtes d'ailleurs l'initiateur, l'instigateur même de ce festival, le FIFPAN, le Festival International du Film et de la Photographie Animalier et de Nature. Il y a des metteurs en scène qui viennent du monde entier, avec une sélection, une compétition divisée en 2 catégories, des films professionnels, mais aussi les films amateurs, et si j'ai bien compris votre message quand vous avez installé ce festival, c'était aussi avoir ici en France, au cœur des Landes, l'opportunité d'échanger autour de la sauvegarde de notre environnement et de la protection des espèces animales. Donc c'est un festival engagé.
Tout à fait, monsieur. On est là surtout pour sensibiliser le public à l'importance du patrimoine naturel, à travers l'image, les biais de l'image, à travers l'art de l'image, à travers les photographies et les films, à travers des aventures humaines. Chaque photographe, chaque réalisateur, chaque technicien va nous faire des conférences, il va nous raconter son vécu dans la jungle, au pôle Nord, en Madagascar, en Patagonie. Chacun va nous raconter ses histoires. Donc le film, c'est bien, Les photos, c'est bien, mais derrière, il y a une histoire. Derrière, il y a une personne. Derrière, il y a une équipe qui a fait ce film. Et ils vont nous raconter l'envers du décor, le making-of de ce film, l'aventure humaine de ce film. Et c'est ça qui me rend très fier d'avoir fait ce festival, parce que c'est la première fois en France, je pense, qu'on redécerne des awards à des techniciens du visuel. Ingénieurs du son, monteurs, chef opérateur, réalisateur. Ça, c'est très important, de mettre en lumière les techniciens du visuel qui font, grâce à eux, que le film et le cinéma documentaire animalier existent.
Merci beaucoup, Jorge Camilo Valenzuela. Le FIFPAN, Festival International du Film et de la Photographie Animalier et de la Nature, s'ouvre donc aujourd'hui à Mimizan jusqu'au 2 juin. Vous pouvez réécouter cette émission en passant par franceculture.fr à la page du Réveil Culturel. L'émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Claude Nior. On se retrouve demain à la même heure en compagnie du chanteur Chicken Jafakoli. Les petits matins continuent sur France Culture. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous. Merci.